Pour l'amour de Sion, Israël, mythe et réalité. Bonjour, nous sommes Stéphanie Soufir et Michael Barzvi. Nous sommes à Radio TAF à Tel Aviv. Nous vous proposons une série d'émissions dédiées à Israël et au sionisme à travers l'histoire, les grands événements qui ont marqué Israël, les personnages qui l'ont façonné, les idées et les mouvements de pensée qui ont forgé cette histoire. Notre but est de comprendre, d'expliquer, de donner des faits et des éléments de réponse aux questions que tout le monde se pose sur Israël et le sionisme. Aujourd'hui, nous allons faire la deuxième partie de notre émission sur le mandat britannique. Bonjour Michael.
Bonjour Stéphanie. Comment va le mandat britannique ?
Et écoutez, justement, je vous posais la question.
Écoute, le mandat britannique, c'est notre deuxième émission. Et on avait parlé dans la première émission, effectivement, de la façon dont les Anglais avaient reçu ce mandat. Et surtout, en expliquant bien ce qu'était techniquement et politiquement et juridiquement le mandat.
Absolument.
À savoir que l'Angleterre n'avait pas sur la Palestine de droit de souveraineté, mais devait gérer cette terre pour permettre l'installation d'un foyer juif et favoriser donc les intérêts de ceux pour qui ce mandat avait été attribué, à savoir le peuple juif, l'organisation sioniste. L'Empire britannique, évidemment, avait d'autres intérêts en tête. Et donc, cette période où nous allons analyser dans cette deuxième émission plutôt les événements qui ont marqué cette période du mandat britannique jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Après, je pense qu'on parlera de la fin du mandat à partir du début de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à l'indépendance. Mais disons que dans cette émission, il faut expliquer la politique au fond de la Grande-Bretagne pendant cette période qui dure à peu près une vingtaine d'années, de 1919, 1920 jusqu'à 1939, qui est une politique qui est caractérisée finalement par, un désaveu ou une façon de se renier des engagements envers le mouvement sioniste. Et une politique britannique qui, petit à petit, va devenir de plus en plus une politique coloniale qu'une politique qui va favoriser, au fond, la réalisation des objectifs du mandat.
D'accord.
Alors, évidemment, quand on regarde le mandat britannique, déjà, on se rend compte que c'est non pas le ministère des Affaires étrangères qui va gérer, disons, le mandat britannique, mais le ministère des colonies.
D'accord. Déjà, bon, c'est un premier point intéressant.
Voilà. Déjà, on voit qu'à partir du moment où le gouvernement britannique décide de confier au ministère des colonies la gestion de ce mandat, on comprend qu'il y a là, au fond, un intérêt colonial, impérialiste, et non pas forcément les intérêts qui étaient prévus dans le mandat à l'origine. La principale contradiction, je dirais, la principale difficulté, c'est la question de l'immigration juive. Parce que dès le départ, et ça fait réfléchir une partie des dirigeants du mouvement sioniste sur, effectivement, la politique que les Anglais allaient mener, c'est que dès le départ, alors qu'on pensait que la réalisation de ce mandat, c'était, au fond, favoriser l'immigration juive et donc permettre le développement de Yishuv, ce qu'on appelait de la société israélienne qui se mettait en place, la société juive en Palestine, eh bien, dès le départ, les Anglais ont voulu limiter l'immigration. Et donc, ils l'ont fait par l'entremise de ce qu'on appelait des livres blancs.
D'accord.
Ce livre blanc, c'était un livre qui fixait, au fond, des critères, des quotas quant à l'immigration, pour limiter l'immigration. Et la raison qui était invoquée par les Britanniques, c'était ce qu'ils appelaient la capacité d'absorption économique. Autrement dit,
D'accord.
c'était de dire il n'y a pas de possibilité d'intégrer tous ces immigrants, donc il faut limiter l'immigration. Mais curieusement, par rapport à la population arabe, il n'y avait aucune limite.
D'accord, aucune
donc,
limite.
Aucune limite. Et dans les documents que nous connaissons, qui ont été publiés par le mandat britannique en 1937, lors d'une des commissions sur la Palestine qui s'est réunie, qui était appelée la commission Peel en 1937, les Anglais eux-mêmes disent qu'il y a plus de 200 000 arabes qui sont arrivés en Palestine depuis les premiers jours du mandat.
Comment on peut expliquer ça, le fait qu'il y ait des quotas pour l'immigration juive et pas pour l'immigration arabe ? C'est déjà, dès le début, un désaveu de la volonté de créer un foyer juif ?
Non, je crois qu'il y avait, au sein du ministère des colonies et aussi du ministère des Affaires étrangères, et également dans les milieux, des diplomates de la diplomatie britannique, il y avait tout un courant anti-sioniste. On a déjà évoqué les gens qui étaient un peu des admirateurs de ce fameux Lawrence d'Arabie et des gens qui étaient un peu dans cette idée qu'il fallait favoriser aussi la population arabe et qui étaient foncièrement anti-sionistes, voire même plus. Je dirais un peu antisémite aussi. D'accord. Et donc, on a vu que quelque part, les Anglais avaient tout de suite compris qu'une des méthodes ou une des manières de maintenir leur pouvoir en Palestine, c'était justement de monter finalement les communautés les unes contre les autres.
D'accord.
Divisées pour régner. Et donc, plus il y aurait d'opposition au sionisme, plus la présence britannique serait importante pour justement maintenir l'ordre ou pour empêcher qu'il y ait des affrontements. Et quelque part, on a vu à plusieurs reprises, on le sait aujourd'hui dans de nombreux documents de l'intelligence service et des documents de l'armée britannique qui ont été publiés après dans les archives anglaises, on a vu qu'à plusieurs reprises, les Anglais ont encouragé des émeutes contre les sionistes pour justement montrer qu'il y avait des difficultés et qu'il fallait que le pouvoir britannique soit là, avec son armée, avec sa police, avec son administration, justement, pour, quelque part, je dirais que le fait qu'il y ait un conflit servait les intérêts britanniques, justement, dans leur rôle de...
Ils étaient nécessaires sur place.
Leur présence en tant qu'armée, en tant que pouvoir administratif, était important, justement, pour maintenir l'ordre. Mmh. Donc, pour maintenir l'ordre, il faut montrer qu'il y a du désordre. Donc, quelque part, ils étaient aussi intéressés pour limiter les objectifs sionistes à encourager l'opposition arabe au sionisme.
D'accord.
Et donc ça, c'est tout à fait prouvé par tous les documents historiques. Et ça tient aussi à un autre phénomène qui se passe en Europe, c'est que cette Société des Nations, qui a accordé le mandat, qui est un peu l'ancêtre de ce qu'on appelle l'ONU aujourd'hui, cette Société des Nations s'est avérée, je dirais, un organisme extrêmement faible, sans aucun pouvoir, et qui donc, plus la Société des Nations se montrait impuissante à arrêter, je dirais, les politiques coloniales des grands empires, plus finalement les Britanniques avaient les mains libres. Et donc, ils n'étaient pas retenus. La Société des Nations était un organisme dont on a bien vu plus tard, avec la montée du nazisme, que la Société des Nations n'avait absolument aucun pouvoir et qu'elle était totalement impuissante à arrêter les occupations militaires de tel ou tel empire.
D'accord. Elle était puissante à octroyer ce mandat britannique en Palestine.
Au départ, on a pensé qu'elle était puissante.
Mais en fait, elle ne pouvait absolument pas contrôler ensuite ce qui se passait.
Oui, c'est un peu comme l'ONU aujourd'hui, sauf que c'était encore plus faible que l'ONU d'aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins de moyens, non pas d'armée. Aujourd'hui, l'ONU a des casques bleus et de temps en temps des forces d'intervention. Mais à l'époque, la Société des Nations était un organisme qui se réunissait à Genève, qui donnait de bons conseils, mais qui finalement n'avait aucune possibilité d'arrêter les grandes puissances de pratiquer leur politique impérialiste. Alors, au sein de l'organisation sioniste, il y a évidemment, on comprend qu'il y a un changement d'attitude des Anglais, et il y a finalement deux prises de parti différentes. Il y a la politique des dirigeants du mouvement sioniste, comme Weizmann, qui, lui, est sous influence anglaise, qui vit à Londres, et qui donc pense qu'on peut encore infléchir, modifier la politique anglaise. Il faut simplement essayer de s'allier avec certains Anglais qui sont favorables au sionisme. Et donc, il faut se battre, je dirais, sur le terrain politique en Israël pour essayer de modifier la politique sur le terrain. Et puis, il y a, je dirais, une autre tendance qui naît au sein du mouvement sioniste, qui est dirigé par Jabotinsky, avec la fondation du Bétard, qui pense que les Anglais n'ont pas intérêt à soutenir le mouvement sioniste et que donc, forcément, à un moment ou un autre, nous serons en conflit aussi bien avec les Anglais qu'avec la population arabe, et que ce conflit, finalement, il est pratiquement inévitable. Et qu'il donc, il faut se préparer, d'une façon ou d'une autre, à une guerre d'indépendance, ou en tout cas à un conflit politique, et peut-être même armé, avec la puissance britannique. Et donc, dans l'idée de Jabotinsky, les Britanniques deviennent des occupants, et non plus une puissance mandataire, mais une puissance occupante.
Voilà,
une puissance coloniale occupante. Alors évidemment, dans les premières années du mandat britannique, il y a un haut commissaire qui s'appelait Herbert Samuel, qui lui, à titre personnel, individuel, est plutôt favorable au sionisme. Et donc, il applique la politique imposée par le ministère des colonies, mais malgré tout, sur le terrain, lui est plutôt quelqu'un qui est proche du mouvement sioniste et qui est plutôt convaincu, je dirais, par l'idée sioniste.
D'accord.
Donc, je dirais que pendant cette période au début du mandat, et également sous celle du second. Lui, il était là jusqu'en 1925. À partir de 1925, il y aura un autre haut-commissaire britannique, qui est la haute autorité britannique du mandat, qui s'appelait Lord Plumer. Et donc, finalement, jusqu'en 1923 et 1928, malgré les premières politiques d'immigration, de limitation de l'immigration, et malgré les premiers livres blancs, c'est une période relativement calme. Il y a quelques oppositions, quelques conflits avec la population armée ici, avec la population arabe, parfois des émeutes, parfois des conflits un peu violents, mais d'une façon générale, le Ishouf se développe.
D'accord.
Et donc, il y a une alia relativement importante qui s'installe en Israël et qui commence à créer d'autres kibboutzim, des moshavim,
d'accord,
qui développent les villes. Et les Anglais ont une armée qui représente à peu près entre 10 et 15 000 hommes et qui maintient l'ordre d'une façon à peu près régulière. Il faudra attendre, je dirais, 1928 pour qu'il y ait vraiment des événements beaucoup plus graves qui vont encore modifier la politique britannique et aboutir à ce qu'on appelle le second livre blanc de 1929.
D'accord. Et ce second livre blanc, il limite encore plus, l'immigration ?
Alors, on va y revenir. Il fait suite à un certain nombre d'événements qui se sont déroulés avant, disons, entre 1928 et 1929. Cela dit, dans la période qui précède, puisqu'on va arriver à 1929, à ces fameuses émeutes, y compris ce massacre de Hebron, qui a été à l'origine, justement, de ce second livre blanc. Mais disons que dans la période entre 1923 et 1928, il y a quand même un certain nombre de choses qui se passent et qui sont importantes en Israël. Par exemple, je donne un exemple de quelque chose qui est assez symbolique, c'est la création de la première université. Il y avait déjà le Technion à Haïfa, mais il y a la création, qui est un événement important pour le monde, qui est la création de l'Université hébraïque de Jérusalem.
D'accord.
Et dans cette cérémonie qui a été reproduite, où enfin, on a déjà des films où on voit cette cérémonie avec des gens très importants, pas tous des sionistes d'ailleurs, comme Albert Einstein, des gens comme ça, qui sont là et qui participent à cette grande cérémonie d'ouverture, de fondation d'une université hébraïque à Jérusalem, où vont venir s'installer un certain nombre de grands professeurs du monde juif qui décident de venir enseigner à l'université hébraïque,
d'accord,
de Jérusalem. Donc il y avait Magnez, qui était un grand penseur juif américain. Il y a eu Martin Buber, donc des grands penseurs et des grands scientifiques qui viennent s'installer, ou en tout cas qui viennent pour des périodes donner des cours. Donc dès le départ, l'université hébraïque de Jérusalem, qui est fondée en 1925, c'est un grand événement qui marque, si vous voulez, la présence juive en Israël. Alors bien évidemment, il y a aussi dans cette période, la population juive, les sionistes, comprennent qu'ils ont besoin d'avoir une véritable organisation d'autodéfense.
Mmh. Et donc, autodéfense contre la population arabe ou contre les britanniques ?
À la fois la population arabe, mais pas seulement pour des raisons politiques, aussi parce qu'il y avait des pillages, des vols, et donc il fallait qu'il y ait une sécurité qui soit assurée. Et on se rend compte aussi que les Anglais assurent la sécurité, mais pas partout,
d'accord,
pas toujours, d'une certaine façon, avec une certaine politique, et que donc il est nécessaire que les Juifs se forment à l'autodéfense.
D'accord.
Et ça, dès les années 20, il y a une organisation d'autodéfense qui se crée et qui va former des Juifs, des sionistes, à l'autodéfense, à la pratique des armes, et qui donc s'appelle la Haganah,
d'accord,
qui sera, je dirais, le point de départ de ce qu'on a appelé ensuite la Haganah et ensuite l'armée d'Israël. Pendant cette période, évidemment, la Haganah commence à acheter des armes, à créer des centres d'entraînement. Il y a des dépôts d'armes qui existent près de Tel Aviv. En 1927, on a un texte où la Haganah fait une espèce de bilan de tout ce qu'ils ont. Donc on voit déjà qu'il y a un réservoir, il y a des armes, il y a des dépôts d'armes, il y a des centres de formation. Et donc il y a environ, à la fin de cette période, vers 1928, plus de 2000 volontaires,
d'accord,
qui font partie de cette organisation d'autodéfense qui va en fait accompagner la création des kibboutzim et faire des gardes, monter la garde et protéger ces kibboutzim d'éventuelles attaques de pilleurs ou d'attaques arabes, ou même de pratiquer, je dirais, la sécurité autour de ces colonies agricoles qui existent un peu partout. Même à l'intérieur des grandes villes, il y a quelque part aussi des petits groupes d'autodéfense dans certains quartiers où il y a parfois des problèmes avec les habitants qui sont autour, et aussi parce qu'on sait que les Britanniques assurent, je dirais, la police, mais se dispensent de certaines, une certaine forme de protection des Moshavim et des Kibbutzim, donc pour lesquels ils ne sont pas intéressés. Alors cette organisation, elle est organisée par région, et ce qui est intéressant, c'est que dans ces organisations d'autodéfense, il y a des hommes, mais aussi des femmes.
D'accord.
Et ça, c'est le début de ce fameux, je dirais, mythe de l'égalité sexuelle en Israël pour ce qui est des affaires militaires.
Avant de continuer, nous allons faire une petite pause musicale. Nous allons écouter Seyman avec Mo Tzemach Bar. Alors, Michael, peux-tu nous parler de cette chanson ?
Cette chanson, c'est... Comment, Tzemarbar, ça veut dire comme une plante sauvage. Voilà, ça parle des plantes sauvages qu'il y a en Israël, mais c'est aussi une métaphore sur un peu les Israéliens, qui sont un petit peu comme ça, un peu comme des Tzemarbar, comme des plantes un peu sauvages, comme ce qu'on appelait après le Sabra, qui est un mythe qui est né justement à la période du mandat britannique dans les années 30 pour faire une différence, finalement, entre les... Je dirais les tsabarim, ce qu'on appelle. Mmh. Tsabar, c'est les figues de barbarie. Hein. C'est le sabra, c'est la figue de barbarie, qui est piquante à l'extérieur, mais douce à l'intérieur. Et justement, pour montrer la différence entre les juifs qui viennent de la diaspora, qui sont encore un petit peu galoutiques, comme on dit, avec les marques de l'exil, et les juifs qui sont de la terre, voilà, qui sont comme des plantes sauvages.
Est-ce que tu peux nous parler justement des événements qui ont amené à ce deuxième livre blanc des Britanniques ?
Alors, il y a eu un changement radical. On avait compris déjà qu'entre 1922-23, début du mandat britannique, et 1928, que même s'il y avait eu deux hauts commissaires qui étaient plutôt favorables au sionisme, que la politique générale britannique était plutôt une politique anti-sioniste, ou en tout cas qu'elle n'allait pas favoriser les objectifs du mouvement sioniste. Mais à partir de 1928, lorsque Lord Plumer quitte son poste et que un nouveau haut commissaire va être nommé, qui s'appelait Lord Chancellor, qui était connu pour ses positions pro-arabes.
D'accord.
Donc, les Arabes à ce moment-là, et notamment le Mufti de Jérusalem, Haj Amin, comprend que jusqu'à présent, les Arabes ne pouvaient pas agir au fond sans aide extérieure. Lorsqu'ils attaquaient des Juifs, c'était avec l'aide extérieurs qui venaient parfois de Syrie, parfois de la Transjordanie, parfois d'autres pays. Tant que l'armée britannique contrôlait cette aide extérieure, les moyens d'action contre les sionistes étaient malgré tout des moyens d'action limités. Mmh. À partir de 1928, le Haut Comité arabe qui se réunit se rend compte que c'est le moment de ranimer, je dirais, son combat contre le sionisme. Et dans la période de transition entre, je dirais, le départ de Lord Plumer et l'arrivée du nouveau haut commissaire Lord Chancellor, il se passe quelques semaines, pendant l'été 1928. Et c'est à ce moment-là que, alors que le pouvoir est entendu par un secrétaire qui est finalement le remplaçant, il s'appelait Harry Locke, qui lui détient tous les pouvoirs à la place du haut commissaire, c'est le moment où le haut comité musulman décide d'empêcher les Juifs de se rendre au mur des Lamentations.
D'accord.
En considérant, à ce moment-là, que cette région, enfin, ce site, qui est celui du mur des Lamentations et du mont du Temple, que les Arabes appellent en arabe Al-Bourak, doit être interdit aux Juifs et aux infidèles. Et donc, il se trouve que, en septembre 1928, il y a les fêtes de Tichri, Rosh Hashanah, Yom Kippour. Et on décide, non seulement les Arabes ne veulent pas que les Juifs viennent prier, mais les Britanniques décident d'enlever la séparation entre hommes et femmes. Et donc cette séparation est une atteinte, enfin la suppression de cette séparation, c'est une atteinte directe aux gens qui allaient prier sur place. Et donc, quelque part, les hommes du Mufti de Jérusalem considèrent que ils voient ça comme une espèce d'encouragement à leurs activités anti-juives, anti-sionistes, et ils attaquent des juifs dans les rues de Jérusalem. Et donc, ce sont des attaques violentes, des agressions contre des juifs qui viennent prier au mur. Les plaintes sont déposées auprès de l'administration britannique qui décide de ne rien faire. Et le comité de surveillance de la SDN est également averti, mais évidemment, il ne réagit pas non plus. Et donc, la seule réaction, c'est une déclaration du ministère des colonies qui dit « Oui, les Juifs ont le droit d'aller prier au mur », mais ça s'arrête là.
Et comment réagissent les sionistes ?
Alors, d'une certaine façon, la Haganah commence à préparer des actions d'autodéfense pour protéger les gens qui iraient et qui voudraient prier le jour du Yom Kippour. D'un autre côté, les Anglais commencent à négocier. Chaque jour, au fond, que les gens pendant les fêtes de Tichri et qui précèdent les fêtes de Tichri, c'est-à-dire le mois de Elul, où on est censé aller faire ce qu'on appelle les slichot, et donc beaucoup de gens avaient l'habitude d'aller au mur des Lamentations, les musulmans bloque l'entrée de la ville. Et donc, la ville étant bloquée, il faut rompre, je dirais, ce blocus. Ce que les Juifs font la première fois en essayant de forcer ce blocus physiquement, il y a des émeutes, il y a des bagarres qui éclatent, et plusieurs milliers d'Arabes viennent de tous les villages aux alentours pour attaquer les Juifs dans Jérusalem. Et donc, au cours du mois d'août et du mois de septembre, il y a un certain nombre de Juifs et d'Arabes qui sont attaqués, mais surtout 17 Juifs qui vont être assassinés dans la vieille ville à la fin du mois d'août ou début du mois de septembre. Donc c'est déjà, on commence déjà à comprendre que les choses sont en train de dégénérer. Les Anglais n'agissent pas, ils attendent l'arrivée du haut-commissaire qui n'est pas encore arrivé. Et pendant un mois, il y a plus de 160 Juifs qui périrent pendant cette période.
D'accord.
Donc, et à ce moment-là, arrive un événement qui va être probablement le tournant, je dirais, des relations, probablement peut-être le tournant des relations entre Juifs et Arabes dans cette région, c'est le massacre de Hébron.
Qu'est-ce que le massacre de Hébron ?
Alors, le massacre de Hébron, Hébron est une ville sainte pour les Juifs, puisque c'est là où il y a le tombeau d'Abraham. Et donc, il y a une communauté juive qui existe depuis toujours à Hébron, qui se trouve autour de la tombe, ce qu'on appelle Merat Amarpella, c'est-à-dire la tombe d'Abraham. Malheureusement, les Juifs ne sont pas en mesure de défendre la ville. Ils ont très peu d'armes, ils ont très peu de moyens et de gens entraînés pour pouvoir se défendre. Et donc, ils sont attaqués par une foule arabe. Et notamment, on se rend compte que dans le poste de police, il n'y a qu'un seul Britannique qui est tout de suite débordé. Et donc, la foule arabe se précipite vers toutes les maisons juives au cri de mort aux Juifs, et s'ensuit un massacre dans lequel 65 Juifs vont être massacrés à l'arme blanche, pour la plupart, et donc découpés en morceaux avec une cruauté absolument inimaginable. Il y a un certain nombre de blessés, de survivants, qui vont raconter ce qui s'est passé. Et quelque part, pour les sionistes, on se rend compte qu'il y a une véritable collusion arabo-britannique, que malgré les avertissements, les appels des deux rabbins de Hébron, le rabbin Slonim et le rabbin Frank, qui avaient prévenu le chef de la police, qui s'appelait Kaferata, qui était tout seul dans son poste de police, qui lui a essayé un peu de défendre les Juifs, mais il était tout seul. Mmh. Et donc, il a été averti, mais il n'a pas obtenu de soutien, je dirais, de l'armée britannique, qui n'a pas voulu venir et intervenir, alors que ce massacre a été prévu. Donc, ce sont des choses qui se sont déroulées sur plusieurs jours. Et donc, un deuxième massacre va se dérouler quelques semaines après à Safed, avec le même scénario, avec l'assassinat d'une quarantaine de Juifs. On en parle moins du massacre de Safed, mais c'était une semaine après.
Et comment réagissent les Britanniques par rapport à ça ?
Alors, les Britanniques ont fait ce qu'on fait souvent dans ce genre de choses. Ils ont décidé qu'il fallait nommer une commission d'enquête.
D'accord.
Et donc, ils nomment une commission d'enquête sous la direction de Sir Walter Shaw, qui vient en Palestine et qui, pendant 3 mois, interroge des gens, voilà, et puis décide de présenter ses conclusions. Ses conclusions sont claires. Il dit carrément, les émeutes ont été préméditées, organisées par les Arabes, sous l'instigation du Moufti de Jérusalem. Mmh. Mais, évidemment, elle nie l'existence d'une collaboration, même tacite, entre les Arabes et l'administration britannique. Il dit simplement, voilà, les Britanniques n'ont pas eu le temps d'intervenir, etc. Cela dit, l'objectif évident de la commission, c'était de laver l'administration britannique de tout soupçon de collaboration. Mais le résultat, c'est d'un côté que les sionistes décident de poursuivre leur immigration.
D'accord.
Et donc de renforcer l'Yishuv, de renforcer l'autodéfense.
Au-delà des quotas britanniques
Les Britanniques limitent encore les quotas. Et c'est là où il y a vraiment le...
C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi les Britanniques limitent ces quotas, alors que, clairement, il y a un problème entre les Juifs et les Arabes? Pourquoi le résultat de ces problèmes, de ces massacres, c'est de limiter encore ces quotas?
Alors, dans les explications que donne, c'est assez curieux quand on lit ce rapport de Shaw, qui d'un côté dit les attentats étaient prémédités, tout ça avait été organisé à l'avance, il y a eu des massacres d'une cruauté incroyable, tout ça est validé, vérifié, avéré. Et la première conclusion de son rapport, c'est de dire qu'il faut ajourner les 3000 certificats d'Aliyah qui étaient prévus. Pourquoi ? Parce qu'il dit, plus il y a de juifs, plus il y a de tensions, et plus ça renforce l'opposition arabe. Donc pour éviter que les arabes s'opposent aux sionistes, il faut donc qu'il y ait moins de juifs.
Mais du coup, il n'y a toujours pas de limitation de l'immigration arabe.
Non, ça, il n'y en a jamais eu. Et donc, on nomme une nouvelle mission en 1930, sur la direction d'un certain John Hope Simpson, une nouvelle commission qui va étudier la question de l'immigration juive. Mm-hmm. Parce que l'agent juif dit non, il faut justement augmenter l'immigration juive et non pas la limiter. Mais son rapport aboutit à la conclusion suivante. Il n'existe plus en Palestine de terres cultivables, alors que c'est une terre déserte, voilà, pour les nouveaux immigrants. Et donc, le Yishuv ne peut pas se développer sans porter préjudice à la population arabe. Voilà la conclusion. Et donc, évidemment, ces deux commissions d'enquête, avec leurs conclusions, vont renforcer l'antisionisme du gouvernement britannique, qui publie son deuxième livre blanc en 1930, qu'on appelle le livre blanc de Lord Passfield, qui était à l'époque le ministre des colonies, et qui va fixer de nouvelles limites à la fois à l'immigration, mais également au développement des terres, et à l'achat de terres, et à leur développement par les sionistes. Et donc, éventuellement, il envisage même d'arrêter complètement l'immigration. Alors, tout ça a créé un tollé, il y a des oppositions même en Angleterre, de gens qui s'opposent à cette politique, mais quelque part, il veut interdire même la vente de terres à des juifs. Alors que, disons, c'était prévu dans le mandat qu'on devait favoriser le développement de la terre. Et donc, clairement, il s'agit de renoncer aux engagements de la déclaration Balfour. Ça, c'est clair et c'est dit de façon tout à fait claire. Alors, parmi les sionistes, il y avait, comme je disais, les modérés, Weizmann, qui espérait encore que la politique britannique allait changer, et puis d'autres qui pensaient que malheureusement, ça n'allait pas changer.
J'imagine qu'avec le deuxième livre blanc, le deuxième parti, le deuxième groupe, a eu beaucoup plus de poids chez les sionistes.
Et c'est à ce moment-là que se crée le début de ce qu'on allait appeler après l'Irgun, c'est-à-dire ce qu'on appelait la Haganah Bet, la deuxième Haganah, qui avait une politique beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus militante sur le plan de la formation et de l'opposition militaire, y compris face aux Arabes, y compris face aux Britanniques.
D'accord.
Alors, en 1931, il y a un nouveau Premier ministre qui est nommé en Angleterre, qui s'appelait MacDonald, qui était connu pour avoir plutôt de la sympathie envers le sionisme.
D'accord.
Donc, Weizmann dit, nous avons la chance d'avoir maintenant un nouveau Premier ministre. Et donc, il s'adresse à ce MacDonald en essayant de lui faire changer sa politique, sans pour autant remettre en cause le livre blanc, mais en disant, voilà, il faut des allègements, il faut malgré tout nous permettre d'augmenter l'Alia, d'augmenter les achats de terres et de développement, et les projets de développement. Cela dit, cette lettre ne reçoit aucune réponse. MacDonald, même ayant des sympathies pour le sionisme, ne réagit pas à la demande de Weizmann et va maintenir la politique de l'immigration, de limitation de l'immigration. Malheureusement, on se rend compte aussi, dans ces émeutes de 1929, que la Haganah n'a pas pu répondre, au fond, à des attaques massives de milliers d'Arabes, et que donc il faut augmenter les moyens qui vont être donnés à la Haganah par le Yishuv, et que la répartition, disons, des moyens doit être un petit peu différente, parce que le Yishuv investissait surtout dans le développement de projets agricoles, dans le développement des villes, mais moins dans l'autodéfense. Et là, les priorités vont commencer à changer. Les volontaires de la Haganah vont mettre en place tout un réseau d'autodéfense, qui va se développer et qui va être d'ailleurs soutenu par un officier britannique qui, lui, était plutôt sympathisant du sionisme et qui décide de former, je dirais de façon beaucoup plus active, beaucoup plus militaire et beaucoup plus professionnelle, les membres de la Haganah. Il s'appelle Lord Wingate. Et d'ailleurs, en Israël, il y a un institut de formation de maîtres de sport et de gymnastique qui porte son nom. C'est quelqu'un qui avait justement l'expérience de tout ce travail de formation, de commando sur le terrain, et qui donc a permis aux membres de la Haganah d'améliorer, je dirais, leur formation et leur préparation militaire.
Avant de continuer, nous allons encore faire une pause musicale. Nous allons écouter Boaz Charabi avec Alevai.
Alevai, ume'anan eteled aleinu keshet. Alevai, shela olam haze yesh takana. Alevai, ve'yom yitzmach mitoch sufa go'eshet. הלוואי ולא תאבד לעד המתנה הלוואי שהמדבר יצמיח עשב דשא הלוואי ועוד נשב בצל התאנה הלוואי שלא נכרע ואיש אחיו יואר הלוואי ויפתחו שוב שערי גן עדן הלוואי והתמזגו מזרח ומערב הלוואי הלוואי ונחדש ימינו כאן כתבן הלוואי ולא יישא עוד גוי אל גוי חרב הלוואי ולא ננטוש את דרך התקווה הלוואי והאדם יהיה רחום עד הערב הלוואי שיש סיכוי אחד לאהבה הלוואי שלא נכרע ואיש אחיו יאהב הלוואי ויפתחו שוב שערי גן עדן הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב הלוואי הלוואי ונחדש ימינו כאן כקדם
Michael, peux-tu nous parler de cette chanson ?
Alors cette chanson, c'est Boaz Charabi, qui est un chanteur, disons, de style, ce qu'on appelle le style oriental en Israël, un peu yéménite comme ça. Et ça, c'est une chanson d'espoir, quoi. Espérons que les choses iront bien, les choses se passeront bien. Voilà, ça n'a pas forcément de rapport avec le mandat britannique, mais c'est une chanson d'espoir.
D'accord.
On chante toujours, et à l'éveil, c'est... si c'était vrai.
Alors qu'en est-il justement de l'espoir du sionisme à la suite de ce deuxième livre blanc et de ce désaveu des Britanniques, si je puis dire ?
Alors les années 30, c'est vraiment les années 30, c'est un grand tournant dans l'histoire du peuple juif. Hein. Je crois que l'histoire de la Palestine et du sionisme est liée finalement à tout ce qui se passe aussi en Europe. Puisque à partir des années 30, après la fameuse grande crise de 29, on a déjà les débuts de, je dirais, des sources, des origines de ce qui va devenir la Grande Guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Mm-hmm. Et donc, on voit déjà apparaître des mouvements fascistes, on voit déjà apparaître une espèce de crainte dans les communautés juives d'une montée de l'antisémitisme, et donc une volonté accrue dans plusieurs communautés juives, et on le verra surtout à partir de 1933 en Allemagne, mm-hmm. de juifs, de vouloir quitter l'Europe pour s'installer en Palestine. Et cette pression, elle existe au sein du mouvement sioniste. Mais d'un autre côté, le nombre de certificats d'Aliyah reste toujours extrêmement faible. Ce qui fait que l'organisation sioniste développe ce qu'on a appelé une Aliyah bête, c'est-à-dire une immigration
clandestine,
illégale, et donc qui se fait par qui devient ce que Jabotinsky appelait à un moment le sport national, à savoir l'idée de d'affréter des bateaux et d'essayer d'arriver par tous les moyens en Palestine sans pour autant avoir de certificat d'immigration, en se cachant dans des kibboutzim, en essayant de justement de tromper, je dirais, les contrôles de l'administration britannique. Cette alia est, je dirais, illégale ou clandestine, va se développer énormément dans les années 30. Et il y a des milliers de Juifs qui vont réussir, malgré tout, arriver en Palestine par la Turquie, par le Liban, par la Syrie et par voie de mer également, s'installer de façon au départ illégale, puis ensuite essayer de rester malgré tout sur place. Au sein de l'organisation sioniste, il y a vraiment une scission qui va s'établir entre deux courants. Je dirais un courant, comme je l'ai dit, beaucoup plus militant, un courant qui considère déjà la Grande-Bretagne comme un ennemi, comme un occupant, et un autre courant qui essaye de trouver une synthèse, je dirais, entre le fait de combattre la Grande-Bretagne en tant que sur les questions d'immigration et sur les questions du sionisme, mais tout en restant malgré tout en relation avec ce pouvoir, en considérant que, puisque la puissance mandataire était britannique, on ne pouvait pas aller totalement en opposition, justement pour des raisons économiques et sociales, parce que malgré tout, sur le terrain, des organisations comme la Histadrut, qui était un syndicat, mais un syndicat qui a également été également employeur, et donc qui crée des emplois et qui crée des...
Un syndicat sioniste
voilà,
ou anglais ?
Oui, sioniste, qui a été créé en Palestine à l'époque, et qui était finalement, encore une fois, il faut savoir que la majorité au sein du mouvement sioniste était une majorité travailliste ou socialiste, et donc il y avait un certain nombre d'institutions qui avaient été créées au-delà des kibboutzim, il y avait des institutions qui créaient des emplois de toutes sortes de emplois aussi bien dans l'industrie que dans toutes sortes de services et qui étaient en fait des employés de ce syndicat.
D'accord, mais quel rapport du coup avec les Anglais ?
Ah ben, les Anglais permettaient à ce syndicat d'exister et de travailler. Et donc, si on menait une campagne anti-britannique, on risquait de se trouver en opposition ou de se trouver limité dans l'action sur le terrain. Donc la Histadrut avait plutôt intérêt à négocier ou en tout cas avoir des relations de travail avec les Anglais. Alors, quelque part, ils ne voulaient pas aller au clash, comme on dit. C'était important pour la Histadrut de pouvoir développer beaucoup d'institutions qui existent encore en Israël. Il y avait des banques, il y avait des industries, toutes sortes d'activités économiques et sociales, des services sociaux, des hôpitaux, etc. Tout ça, les Anglais ne s'opposaient pas, disons, à cette activité de la Histadrut. Et d'autres activités qui étaient organisées par l'agence juive. Donc quelque part, l'agence juive disait « il faut essayer, comme on dit, de ménager le chèvre et le chou ». On peut s'opposer à la politique britannique, mais il ne faut pas dire que nous sommes en guerre contre les Britanniques. Alors, cette ligne-là, évidemment, a été critiquée par l'opposition, ce qu'on a appelé la Liabet, qui ensuite allait devenir l'Irgun. Il y avait des oppositions extrêmement violentes, y compris des accusations très très dures, notamment sur la politique à mener par rapport à ce qui se passait en Europe. Est-ce qu'il fallait évacuer des communautés juives qui étaient en danger avec la montée du fascisme et du nazisme? Ou alors, est-ce qu'il fallait essayer de trouver des accords ?
Parce que clairement, là, on est face à quelque chose de paradoxal pour le mouvement sionisme. C'est que le mouvement sionisme a été créé pour sauver les Juifs. Et là, clairement, on est face à une situation, le nazisme ou des Juifs doivent être sauvés. Mais on ne peut pas les amener vers Israël à cause des quotas. Oui. Et malgré tout, le mouvement sionisme n'a pas l'air de trop réagir, j'ai l'impression.
Alors, le mouvement sioniste essayait de réagir par des moyens politiques. Et en revanche, Jabotinsky, qui était opposé à cette politique, pensait que, d'une façon ou d'une autre, le conflit était inévitable et qu'on ne pouvait pas avoir une politique de négociation et qu'il fallait exiger le départ des Anglais de Palestine, plus tôt possible.
Et j'ai une question. Ces Anglais, justement, qui, même s'ils étaient, on va dire, pas de moins en moins pour le mouvement sioniste, ils étaient malgré tout les ennemis de l'Allemagne, donc les ennemis des nazis. Est-ce qu'à ce moment-là, ils ne se sont pas dit que c'était le moment ou jamais d'ouvrir un peu plus les frontières
Au contraire. Ils ont eu exactement l'attitude tout à fait contraire. Ils ont considéré qu'il fallait d'abord vaincre le nazisme. Ça, on en reparlera après, dans le moment de la Deuxième Guerre mondiale, sur l'attitude qu'ont eu les Anglais, quelque part, n'ont pas considéré qu'il y avait un lien entre les deux. Et donc, d'une façon assez curieuse, Ben Gurion a dit cette phrase à un moment, il faut combattre, je dirais, le Livre blanc comme s'il n'y avait pas le nazisme, et le nazisme comme s'il n'y avait pas le Livre blanc. Donc c'est vraiment... séparer les choses. Et bien, pour Jabotinsky, on ne pouvait pas séparer les choses. Alors, avec la montée du nazisme, effectivement,
les choses étaient devenues compliquées. Absolument.
Et d'ailleurs, l'organisation sioniste est allée négocier. À l'époque, un des dirigeants sionistes, qui s'appelait Chaim Orlozorov, qui avait eu des liens, qui était d'origine, enfin, qui avait vécu en Allemagne, qui parlait l'allemand, et qui, dont on raconte, enfin, l'histoire raconte qu'il avait été l'amant de la femme de Goebbels, d'ailleurs. Et qui donc avait des relations avec les autorités allemandes, même lorsque les nazis sont venus au pouvoir, est allé négocier un accord, ce qu'on appelle à Havara, un accord de transfert, et qui consistait à échanger des juifs contre de l'argent.
D'accord.
Et donc à faire venir des juifs d'Allemagne.
D'accord.
Et donc, dans toute cette période de 35, de 33 à 35, 36, il y a eu des juifs qui sont venus d'Allemagne, en Israël, suite à cet accord entre le mouvement sioniste et le pouvoir nazi de l'époque.
Mais ce mouvement était limité toujours par ces
quotas. Par les quotas anglais qui considéraient que, justement, il ne fallait pas permettre aux Allemands de se débarrasser des Juifs pour les envoyer en Palestine.
D'accord.
Ça, c'est extrêmement important. Alors, évidemment, les Arabes, considérant cette situation et surtout le fait qu'eux-mêmes avaient des accords avec les nazis, puisque Raj Amin était un ami d'Hitler, et que les Frères musulmans étaient un mouvement qui avait été soutenu dès sa fondation par le mouvement nazi, avait été même aidé financièrement, quelque part, ils se sentaient encouragés par cette situation. Et donc, ils ont augmenté, je dirais, les attentats et la guerre contre les Juifs.
D'accord.
Et là, nous sommes dans une période qui, entre les années 30, je dirais dans les années 30, à partir de 31 jusqu'à 39, il va y avoir une montée en puissance de la violence anti-sioniste de la part des Arabes, y compris des attaques assez violentes à partir de 1936, qui vont aboutir à la réunion d'une grande commission internationale sur ce qu'on a appelé le partage de la Palestine de l'époque.
D'accord.
Et cette commission, ça s'est réunie entre 36 et 37, s'appelait la commission Peel. Alors la commission Peel, c'est assez intéressant parce que d'un côté, on a demandé à tous les dirigeants sionistes de participer, de venir présenter leur point de vue, y compris même à Jabotinsky d'ailleurs. Et donc tous les débats de cette commission Peel se sont déroulés de façon publique. Avec des discours qui ont été... C'était public. Les gens écoutaient les discours des gens. Et pendant que, sur le terrain, il y avait chaque jour des attentats et chaque jour des agressions contre des Juifs et des réponses, des répliques également, de la part de ce qu'était devenu l'Irgun. Cette situation, je dirais, ce qu'on a appelé à un moment la révolte arabe, de 1936 à 1939, il y a eu probablement... du côté juif, quelque chose comme plus de 100 morts, je pense, pendant toute cette période.
D'accord.
De nombreux blessés et beaucoup de, je dirais, de destruction de culture, de maisons juives, etc. Alors évidemment, pendant toute cette période, les Arabes considéraient qu'ils se sentaient soutenus par les Anglais. Mais à un moment, ils sont allés un petit peu trop loin. Donc les Anglais sont également intervenus. Mm-hmm. Et il y a eu une décision qui a été prise de la part des sionistes, justement pour ne pas, je dirais, préjuger des chances d'obtenir dans cette commission de bons résultats. L'agent juif, c'est-à-dire la direction officielle du Yishuv, a décidé de pratiquer ce qu'on appelait une politique de retenue.
D'accord.
Et donc, évidemment, l'Irgun s'est opposé à
J'imagine.
Cette politique de retenue. Et donc il y avait vraiment une scission au sein des mouvements sionistes. Sur la commission Peel, évidemment, il y a eu une proposition qui a été faite, mais qui a été rejetée par les différents partis. Cette commission Peel, notamment, avait décidé de limiter l'immigration juive à 12 000 personnes par an.
D'accord.
Ce qui était relativement peu, vu la pression qu'il y avait en Europe.
Absolument.
De juifs qui voulaient quitter l'Europe et notamment les pays occupés par l'Allemagne. Et donc, le résultat de la commission Pilz, c'est que aussi bien les Arabes que les sionistes ont rejeté ce plan, puisque les Arabes considéraient qu'ils pouvaient aller encore plus loin, vu qu'on ne laissait pas les Juifs venir. Donc c'est à ce moment-là qu'on voit que le Moufti se tourne carrément vers l'Allemagne et signe un accord de collaboration avec l'Allemagne nazie.
Est-ce que du coup, là, ça met pas fin à,
alors, ça modifie
au soutien
un petit peu,
des Anglais.
Ça modifie un peu l'attitude des Anglais par rapport aux Arabes. Mais ça ne les rend pas pour autant plus sionistes. Et donc, le mouvement nationaliste arabe s'engage à soutenir le nazi. Et donc, il y a un document qui a été signé entre le mouvement nationaliste arabe et le Troisième Reich, dans lequel il est question, il y a 9 points. C'est le développement du commerce entre l'Allemagne et le monde arabo-islamique. La création d'une atmosphère de sympathie pour l'Allemagne, la diffusion des idées nazies dans le monde islamique, la lutte contre le communisme, le boycottage des marchandises juives. Non, c'est pas aujourd'hui. C'est 1937, 1938. Organisation d'actions terroristes dans tous les territoires colonies ou mandats aux Français habités par des Arabes, des musulmans comme la Syrie, le Liban, l'Algérie et le Maroc. La lutte contre la formation d'un État juif et la propagande culturelle allemande dans les pays arabes. Et également, en cas de succès du mouvement arabe de libération, un appel est fait aux capitaux allemands et au potentiel intellectuel allemand.
D'accord.
Voilà le document qui a été publié, qui se trouve d'ailleurs dans les documents officiels du Troisième Reich. Donc c'est un accord qui avait été signé entre le mouvement qu'on appelle aujourd'hui palestinien, mais qui s'appelait à l'époque le mouvement nationaliste arabe,
d'accord,
dirigé par le Moufti de Jérusalem, qui était le tonton d'Arafat.
D'accord.
Voilà. Donc le soutien de ce pan-arabe, si je peux dire, aux nazis était clair, ce qui malgré tout a modifié la politique des Anglais vis-à-vis du Moufti notamment, et donc il a commencé à devenir finalement un adversaire pour les Anglais. Cela dit, ça n'a pas convaincu les Anglais de soutenir pour autant les sionistes. Les Arabes sont allés très très loin, puisqu'il y a eu même l'assassinat d'un gouverneur, un des gouverneurs anglais, Andrews, par des Arabes. Et donc, à ce moment-là, les Arabes, le Moufti de Jérusalem a été destitué par le haut commissaire britannique. Mais malgré tout, ça n'a pas changé, malgré cette dissolution du haut comité arabe du Moufti de Jérusalem, ça n'a pas forcément changé la situation par rapport aux sionistes.
Alors le
Moufti de Jérusalem avait quitté, il est parti, il s'est enfui, il s'est réfugié au départ au Liban, et puis ensuite on l'a retrouvé après en Allemagne. Mais malgré tout, la politique britannique n'a pas changé. Les Britanniques ont à un moment proposé aux Juifs qui voulaient quitter l'Allemagne ou qui voulaient quitter l'Europe d'aller s'installer ailleurs.
Ailleurs qu'en Palestine ?
Madagascar, ou
l'endroit
ailleurs.
Justement,
voilà,
qui était...
Mais pas en Palestine.
D'accord. Nous allons malheureusement devoir nous quitter. Merci beaucoup, Michael. Nous allons nous quitter avec une chanson de Edna Lev, Im Tashuv.
Si tu reviens, et comme toute notre histoire, c'est l'histoire de ce retour, eh bien, on va essayer de revenir. Juste pour terminer, le nombre de Juifs qui vient en Israël à la veille de la Seconde Guerre mondiale est extrêmement faible. On est à l'époque sur 3 à 4 000 juifs par an.
D'accord.
Alors qu'il y a des millions de juifs qui, en 1939, sont déjà menacés par la botte nazie et déjà l'occupation de la Pologne, je rappelle, 1er septembre 1939. Donc cette concomitance entre un livre blanc qui est prononcé en 1939, qui limite encore l'immigration, et ce qui va se passer dans les années, c'est quelque chose qui, historiquement, est insoutenable et insupportable et difficile à expliquer, à comprendre. La responsabilité, je dirais, de la Grande-Bretagne est énorme sur le plan historique. Et d'un autre côté, les sionistes, on le verra, vont s'engager dans l'armée britannique pour justement défendre la liberté et combattre le nazisme. C'est là où il y a toute cette contradiction entre, je dirais, la politique coloniale des Britanniques à l'égard du mouvement sioniste et d'un autre côté, le fait qu'ils ont combattu héroïquement aussi le nazisme. Donc cette contradiction-là a posé un vrai problème pour les sionistes et pour le peuple juif en général. Parce qu'on ne pouvait pas ne pas soutenir la Grande-Bretagne, mais la Grande-Bretagne, d'un autre côté, n'a pas favorisé, à un moment où le peuple juif avait besoin de ce refuge. C'était l'idée aussi du mouvement sioniste, c'était de fournir un refuge au peuple juif. Eh bien, les Anglais nous ont trahis.
Absolument. Merci beaucoup, Michael.
והנה תשוב ולא תמצא אותי בבית חכה לי רגע קט חכה כמה דקות יצאתי בוודאי וכבר אני חוזרת הנה כל סנדליי תופף במדרגות חכה לי שעשו על זה מהר לברוח ואל תשאיר כמו אז על גב דלתי פתקה ואל תשאיר מכתב בסוף תיבת הדואר אשר ימים רבים כל כך נותרה ריקה אם תשוב אם תשוב אם תשוב אליי אם תשוב אליי אם תשוב אליי ואם תשוב היום אחרי הצהריים אפתח מיד את התריסים המוגפים השמש הגדולה תשלח כמו אז כפיים אל חוצת חבר פניך היפים ואם תשוב אליי בערב קור בדלת תקשוט את מעילך ותלב ובקרוס דול אני איזה גור בלה אני אוביל אותך לחום ואל האור אם אתה שוב, אם אתה שוב, אם אתה שוב אליי אם אתה שוב אליי, אם אתה שוב אליי ואם אתה שוב רעב, נושא אבק ועוני ואם אתה שוב עייף מדרך ארוכה ואם אתה שוב אליי בודד וזר כמוני אני עוד מחכה אני עוד מחכה אזי על השרפה פשוט תשב בשקט בכל אשר תאמר בכלל זה לא חשוב אהיה אולי בוכה אהיה אולי צוחקת אומר רק שתי מילים ידעתי תשוב, תשוב, תשוב אליי, 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 תשוב אלי